Le commentaire de Serge Paquin.
Monsieur Paquin.
Monsieur Pelletier.
Serge, j'ai l'impression de vivre le jour de la marmotte. Parce que ce qui a encore marqué pas mal la scène politique nationale cette semaine, c'est encore le dossier des deux ministres que Justin Trudeau, cette fois-ci, a mis dehors.
Oui, pour une 8e semaine d'affilée, hein? Faut bien le noter, ça fera 8 semaines dimanche. Alors, ça n'en finit plus de finir.
C'est incroyable. Hein?
Incroyable. Mais espérons qu'on assiste quand même aux derniers épisodes.
Pas sûr.
Non, je suis pas sûr non plus. Mais c'est quand même un vœu que je formule.
Oui.
Écoute, bon, ben la dernière goutte qui aurait fait déborder le vase, c'est le fameux enregistrement de la procureure générale, Mme Raybould, avec le plus haut fonctionnaire de l'État canadien. Chose très inusitée, hein, parce que c'est la procureure générale, c'est en quelque sorte l'avocate du gouvernement. Mmh. Elle enregistre donc ce qu'on peut appeler son client. Moi, j'ai jamais vu ça, un avocat qui enregistre son client et qui l'utilise à son insu, il faut bien le noter,
et qui l'utilise
par la suite.
Oui, elle disait vouloir se protéger.
Exactement. Elle voulait protéger son poste, elle voulait se protéger, ce sont les mots qu'elle a utilisés. Enfin, je pense que ça nous éclaire pas mal sur ses motivations. L'indépendance judiciaire là-dedans, elle est où? Je pense que madame pensait à son maintien en fonction. Mais là, heureusement, là, je pense que les différents caucus de députés des différentes régions du pays, je pense qu'ils ont mis le premier ministre au dos du mur. Là. Écoutez, ça ne pouvait plus durer, c'était intolérable. Mais là, on a appris aujourd'hui qu'il y avait peut-être certaines explications à ces longs délais qui seraient que Mme Raybould avait fixé 5 conditions pour rentrer dans le rang. Et là, on parle du renvoi de M. Botts, hein, principal conseiller du premier ministre, du greffier du conseil privé, donc deux qui sont partis, faut bien le noter, et elle demandait également le renvoi de M. Bouchard, qui est un conseiller au bureau du premier ministre, et l'admission par-dessus le marché de M. Trudeau que son bureau s'était livré à des pressions inappropriées, et la cinquième, non la moindre, le maintien de sa décision, puis là, on parle au moment où elle a été mutée de fonction et elle exigeait que son successeur maintienne sa décision à elle dans le dossier SNC-Lavalin. Ça, c'est l'ex-procureur général et je t'avoue que ma réaction à ça, c'était que cette exigence-là était complètement illégale parce qu'on le sait maintenant, le mécanisme de réparation prévu à la loi confère au procureur général, ministre de la Justice, un pouvoir discrétionnaire de demander qu'il y ait un accord de réparation et, par conséquent, ne pouvait pas, faire en sorte que le gouvernement se lie d'avance à l'opinion du futur procureur général. Alors, elle-même recommandait quelque chose qui était illégal à ce moment-là, si tout ça est avéré, bien sûr.
Oui, en même temps, ce matin, j'ai adoré l'une des caricatures de nos quotidiens où on voyait le bateau libéral avec les deux ministres, Raybould et Philpott, avec des haches dans les mains, puis le bateau qui coule, à dire « Ah, qu'est-ce qui se passe, tu sais? » Voyons donc, c'était d'emblée, de toute façon, le sort qui leur était réservé, c'est-à-dire d'être tassé.
C'était devenu inéluctable, qu'on ajoutait l'insulte à l'injure. Puis l'enregistrement, effectivement, a fait que... Puis à cet égard-là, c'est sûr que le leadership de M. Trudeau en prend pour son rhume, parce que M. Trudeau, il a eu l'air de toutes sortes d'affaires, d'un mauvais communicateur, etc., mais ce dont il n'a pas eu l'air, c'est d'un quelqu'un qui est en contrôle, un chef, un leadership auquel on doit s'attendre d'un chef d'État. Et ça, il a manqué son coup pendant 8 semaines.
Et que les deux lui ont reproché, d'ailleurs... Tu sais, lorsqu'il y a eu les premières sorties, il parlait du manque de leadership de Justin Trudeau, puis questionnait ça. Puis après ça, elle souhaiterait se présenter en campagne électorale pour dire « il est beau, il est fin, puis c'est le meilleur premier ministre ». Ça fonctionne pas, là.
Non. Là-dessus, je reviens à ce que je te mentionnais la semaine dernière. Moi, je pense que leur plan de match, c'était « écoute, nous autres, on ne sera plus jamais ministre compte tenu des événements ». Mais on va se présenter sous la bannière libérale et là, on a toutes les chances d'être élu. Mais là, je pense qu'on a mis un terme à leurs ambitions à cet égard-là. Est-ce que Mme Raybould voudra se présenter comme indépendante?
Ou avec une autre bannière? Va-t-elle traverser la Chambre?
En tout cas, si j'étais à la place des autres partis, je ne courrais pas après une joueuse d'équipe comme ça, moi.
Non, hein?
Non, non, vraiment pas. Puis là, la question qui demeure maintenant, oui, c'est qu'est-ce qui va arriver avec le dossier SNC,
ben, c'est ça, là.
Lavalin. Puis là, de plus en plus, là, on resoulève la question parce qu'on les avait oubliés pendant plusieurs semaines.
C'est sûr.
On débattait du sort de Mme Rebold, mais oui, on parlait peu de SNC Lavalin. Là, il semble que ce soit encore à l'ordre du jour. Est-ce qu'on va aller de l'avant avec un accord de réparation ou pas? Est-ce qu'on le fera avant l'élection ou après l'élection? Bon. Là, tout est sur la table, semble-t-il.
La loi sur la laïcité, et cette semaine, on en a entendu de toutes les couleurs, de la ministre qui s'est mis un pied dans la bouche en disant que la police allait régler pour les délinquants de la loi sur la laïcité. Come on!
Je dirais que c'est la déclaration malheureuse de la semaine. Hein? Oui, je pense que toute une gaffe, c'est sûr. Puis M. Legault n'a pas tort de dire que, bon, il y a des ministres plus expérimentés que d'autres. Et là,
c'est son premier faux pas, Mme Guilbeault.
Oui, effectivement, parce qu'elle fait très bien les choses depuis le tout début, mais là, c'est quand même tout un faux pas, mais qui a été très vite réparé, il faut le souligner. Mais
il y a une question de désobéissance civile.
Effectivement. Ça, là-dessus, là, je pense que c'est complètement irresponsable, les gens qui en appellent à la désobéissance civile à l'égard d'une loi qui, vraisemblablement, sera adoptée par le Parlement. Mais quand une loi est adoptée par les élus, c'est leur job, ça, d'adopter les lois. Ouais. Et c'est eux qui incarnent le pouvoir législatif dans une société. Ben, tous les citoyens doivent s'astreindre à respecter les lois qui sont votées par le Parlement. Et à plus forte raison quand on est une institution publique. Alors, quand on voit les villes du West Island qui encœurent en appel à la désobéissance civile en disant qu'elles-mêmes ne respecteraient pas la loi par rapport à l'ordre.
Les commissions scolaires.
Les employés, les commissions scolaires. Moi, c'est déjà arrivé dans nos conversations au conseil municipal que des gens évoquent ça. Bien, on devrait peut-être pas... Cette loi-là, ça n'a pas de bon sens, on ne devrait pas la respecter. Puis moi, chaque fois, je leur disais, rappelez-vous que nous-mêmes, on adopte des règlements. Et là, on va faire comment pour dire aux citoyens, là, bien, écoutez, le conseil s'est prononcé, on a adopté le règlement, vous devez vous soumettre. Quand nous, on décide, à d'autres égards, de prendre la loi dans nos mains puis de dire, bien, celle-là, elle ne fait pas mon affaire, je ne la respecterai pas.
Non, non, puis l'image est très forte, là. Tu sais, c'est de désobéir, mais après ça, demander aux autres, non. À nous autres, par exemple, il faut nous obéir et respecter nos règlements. Quelque chose qui ne fonctionne pas dans la
Non, puis je pense que le gouvernement, c'est notre gouvernement, il a la légitimité de le faire. Sinon, ça devient l'anarchie dans une société quand les gens décident quelle loi ils obéissent et à laquelle ils n'obéissent pas.
Mais en même temps, Serge, vous l'avez dit, entre autres, dans le domaine municipal, on adopte des règlements, on adopte des façons de faire, puis ça se doit d'être respecté. C'est ça dont on parlait. Mais il y a aussi des sanctions pour la délinquance.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas avec la fameuse loi sur la laïcité.
Ouais. Mais ça, je pense que... Puis là, bon, le gouvernement s'en explique de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de questions de soulever à cet égard-là. Là. Mais je pense qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport aux employés, bien, il y a toutes les sanctions administratives qui peuvent s'appliquer. Là, écoutez, si un supérieur dit à un employé, écoute, tu vas enlever ton signe religieux parce que c'est pas permis maintenant, bien, s'il n'obéit pas, bien, il y a toute la gradation des sanctions. Là. Il peut avoir une suspension, puis une suspension, bien... La première suspension de 2 jours, 3 jours, puis après
ça
une semaine.
Ça va revenir aux employeurs, donc aux commissions scolaires, aux villes,
au même titre
au ministère.
Que les gens n'ont pas le droit de porter des t-shirts où ils font la promotion d'un parti politique, par exemple.
Oui.
Ben, c'est le même processus qui s'applique. Ça fait partie des limitations dans le cadre du travail.
Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir, parce que là, on parle d'un projet de loi qui doit être débattu, puis encore faut-il qu'il soit adopté. Mais là, on parle du bâillon potentiel.
Oui, je pense que M. Legault a refusé de dire qu'il renonçait au bâillon. Puis d'ailleurs, ce matin, à la période de questions, M. Arcand, je pense qu'il a eu des paroles malheureuses en disant au premier ministre qu'il méprisait ceux qui ne pensaient pas comme eux. Et puis il lui posait la question, est-ce que vous êtes vraiment digne d'être le premier ministre? Moi, je pense que c'est aller trop loin. On doit, surtout dans le cadre d'un débat comme celui-là, aussi sensible, je pense que les chefs de parti doivent donner l'exemple et garder un ton respectueux, un ton digne, Et puis, M. Arcand, ça y ressemble pas.
Oui. Et de voir aussi que QS joue à girouette là-dessus, le Parti québécois, là, on ne sait plus trop, parce que faut quand même se rappeler que le PQ avait soumis la fameuse charte des valeurs. Ouais. Les libéraux qui vont de ce type d'attaque, ça donne un drôle de scénario actuellement.
Ouais, ben, au niveau
par l'opposition, là.
Oui. Ben, au niveau du PQ, bon, eux, je pense qu'ils sont à l'aise globalement avec ce qui est amené, mais notamment le fait qu'on a voté pour le déplacement du crucifix. Mais eux allaient plus loin en disant qu'on devrait aussi interdire le port des signes religieux aux employés des CPE, des garderies. Alors là-dessus, ils allaient un peu plus loin. Mais pour l'ensemble de ce qui est proposé, je pense qu'ils semblent à l'aise. Mais Québec solidaire nous a fait, je dirais pas la surprise, parce qu'on s'y attendait un peu. Là, on est à l'extrême. On va plus loin que le Parti libéral. Parce que le Parti libéral, rappelez-vous, avait déposé un projet de loi pour dire que les services publics devaient être donnés et reçus à visage découvert. Ouais. Et là, Québec solidaire, lui, il ne s'enfarge pas là-dedans. Aucune interdiction, même au niveau des services publics. On parle de certains critères, là. Mais moi, je pense que notre députée de Québec solidaire, Mme Labrie, aurait eu pas mal plus de misère à se faire élire si Québec solidaire avait adopté cette position-là avant l'élection et non pas après. Puis la même chose pour le député de Québec solidaire en Abitibi, les deux députés de Québec solidaire à Québec. Je pense que les électeurs n'auraient pas apprécié cette position-là.
Oui, parce que c'est un virage pas mal 180 degrés. Complétons avec la rémunération des élus qui est en révision actuellement au conseil municipal de Sherbrooke.
Oui, bien simplement, je pense que c'est une bonne chose de revoir. Effectivement, ça n'a pas été revu depuis le regroupement municipal au début 2002, mais rappelez-vous...
Mais il y a eu des majorations quand même.
Oui, il y a eu des indexations qui étaient prévues à la loi, effectivement. Et à cet égard-là, quand il y a eu le projet sur la gouvernance de réduire le nombre de conseillers, il y a eu des estimations sur les économies à être réalisées. Puis là, on parle des chiffres de 2013, là. Mais ça donnait quelque chose comme 543 000 piastres d'économies de passer de 19 conseillers à 14, comme c'est le cas actuel. Alors, je pense qu'il faudra que le conseil s'assure que ces économies-là sont au rendez-vous. Là, je comprends qu'il y a la question de l'allocation de dépenses qui devient imposable au fédéral.
Alors, ça, c'est normal que ça soit ajusté.
Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier non plus que les allocations de dépenses qui sont au montant de quelque 16 000 écoutez, dans la vraie vie, là, moi, je ne connais pas un élu qui encourt ces dépenses-là dans l'exercice de ses fonctions. Je ferai une exception peut-être pour le maire. Alors, je pense que ça doit être considéré aussi dans l'ensemble, parce que c'est quand même des montants importants. Mais ceci dit, je pense que les élus, ils travaillent très fort.
Ouais.
Puis je pense qu'ils évoluent.
Ils sont assez bien payés. Entre 57 000 et 100 000, on s'entend qu'ils ne peuvent pas pleurnicher qu'ils sont sous-payés.
Moi, j'ai toujours soutenu que la rémunération était correcte. Ceci dit, il peut y avoir des ajustements entre les uns et les autres. Ça, je pense qu'il y a toujours place à s'ajuster en fonction de la réalité d'aujourd'hui. Mais on verra ce que donnera l'exercice.
Merci, M. Paquin.
Merci à vous.
Serge Paquin, rendez-vous à tous les jeudis